Shalom mes frères, donc nous sommes toujours le 23 mars 2022. Voilà, donc je vais continuer dans la deuxième partie donc de l'étude biblique. Israël demande un roi. Voilà, donc c'est la deuxième partie du verset 10 au verset 22. Donc Samuel, donc après avoir rapporté les propos du peuple à l'Éternel Dieu et reçu les recommandations donc d'Élohim, l'Éternel lui l'a mandaté donc d'aller dire au peuple de donner les prérogatives du roi, en tout cas les droits du roi sur le peuple. Le verset dit, Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui avait demandé un roi. Il dit, voici comment procédera le roi que vous vouliez avoir. Vos fils, il les prendra pour les employer à ses chars et à sa cavalerie, les fera courir devant son char, en fera des officiers de 1000, des officiers de 50, les forcera de labourer, de moissonner pour lui, de fabriquer ses armes et l'attirail de ses voitures. Vos filles, il les exploitera pour la préparation des parfums, pour sa cuisine et pour son pain. Les meilleurs de vos champs, de vos vignobles, de vos champs, de vos plants d'olivier, il les prendra pour les donner à ses serviteurs. Il les verra la dîme de vos gains et de vos vignes pour la donner à ses courtisans et à ses esclaves. Vos esclaves à vous et vos servantes, l'élite de vos jeunes gens et vos ânes, il les prendra pour les employer à ses travaux. Il prélèvera la dîme de votre menu bétail et vous-même deviendrez ses esclaves. Donc, voilà. Donc, voici le droit donc, du roi sur le peuple. Il faut dire que c'est bon. Moi, je préfère que le ténèbre règne sur nous. Hein. Avec tout cela, pour un homme, on le voit hein, dans beaucoup de pays où les rois, où les responsables, vous avez vu, vous êtes, en tout cas, il suffit d'ouvrir le journal ou bien de lire la corruption qui règne dans l'élite politique. Les sommes d'argent là, qui sont dépensées, qui sont utilisées. Vous voyez, les gens s'en fichent, hein, ces politiciens s'en fichent, puisque nous payons des impôts, non, n'est-ce pas? Voilà, nous payons des impôts. La dîme, en fait, est un impôt. Hein. Au fait, la dîme est un impôt. Donc, l'Éternel détaille comment vivra ce roi dans l'opulence, dans le luxe, par rapport au peuple, parce que il va prendre beaucoup de choses, n'est-ce pas? Hein? C'était à l'époque de Samuel, mais aujourd'hui, ça se voit hein, dans beaucoup de pays, même dans des pays où il n'y a même pas de démocratie, c'est encore pire. Et dans les pays démocratiques aussi, c'est pire, hein? C'est aussi grave. Ben bon, on ne le voit pas, on ne le voit que quand, lorsque les gens sont pris, hein, lorsque les gens sont pris, hein, les sommes. Voilà, il y a le l'argent libyen. Voilà, avec son procès, il y a eu l'affaire Karachi. Et voilà, il y a eu pas mal d'affaires. Hein. Il y a eu les valises d'argent qui viennent d'Afrique, vous voyez, où à chaque élection française, les politiciens français font des tournées en Afrique, hein, et reviennent avec des valises remplies d'argent, alors que ces pays sont considérés comme pauvres, n'est-ce pas? Ou bien, il y a quelques mois, ou bien c'était l'année dernière, non, ou cette année, il y a eu des coups d'État dans un pays africain, la Guinée, où ils ont trouvé des sommes, des coupures de billets en euros et en francs guinéens dans les propriétés, mais ce n'est même pas la propriété, les propriétés et les entreprises du ministre de la Défense ou bien du Premier ministre. Des billets, hein, des billets. C'est pas des chèques, mais des billets. Même à chaque coup d'État, on découvre des valises de billets dans les résidences, donc des chefs d'État, des ministres, ainsi de suite. Voilà. Il y a eu un président qui n'est plus aujourd'hui et il demandait souvent à ses ministres d'aller lui peser de l'argent, comme il ne va pas s'embêter à compter. Hein? À compter de l'argent, donc on lui amenait des liasses dans des sacs et on pesait. Ou bien il demandait, ok, amenez-moi 20 kilos de tel argent, de telle somme, de telle coupure. Et les ministres vont amener 20 kilos, mais eux-mêmes vont demander 30 kilos. Hein. Ils vont demander 30 kilos, mais ils vont venir avec 20 kilos et le reste, c'est pour eux. Vous voyez, donc il y a beaucoup, beaucoup de corruption. Là, c'est le droit légal du roi. Vous voyez, du roi, c'est le droit légal du roi, ça. Il va amener les enfants à la guerre, les enfants vont être tués, que lui sera tranquille. Hein. Il va prendre les champs. Et voilà, si un président décide de prendre votre champ, de prendre votre maison, il fera tout pour l'avoir. On l'a vu hein, dans beaucoup de pays. Hein. Ou sinon, vous ferez un accident de la circulation. Et puis après, votre bien sera vendu. Ou bien on a vu hein, dans certains pays où le président voulait la femme d'un de ses ministres ou bien de quelqu'un. On vous offre les îles ou le cercueil. C'est comme ça, hein? Ou bien vous ferez un accident de la circulation, ou bien vous ferez une fièvre, on vous amène à l'hôpital et puis vous sortirez les pieds devant. Vous voyez, le roi a un droit de vie et de mort sur les gens, de la même manière, au temps des rois en France. Je pense que c'est Louis XIV, non, qui a tué un de ses collaborateurs, non, parce qu'il voulait quelque chose, je pense, en tout cas, je ne sais plus. Je connais pas l'histoire, mais bon, vous connaissez mieux que moi. En tout cas, les exemples sont là. Ça, c'est le droit légal. Mais aujourd'hui, nous voyons comment les choses se font dans le monde entier. Ce que font les responsables, les présidents, par exemple, dans la guerre Russie-Ukraine, les politiciens ne meurent pas. Hein. C'est les pauvres qui meurent. Et puis, en armant les civils, même je vois même des jeunes filles, j'espère que elles ont fait ça que pour la photo, hein, qu'elles ne vont pas se mettre devant les soldats russes pour tirer. Elles ont autre chose à faire, elles n'ont qu'à partir. Elles n'ont qu'à partir, quoi. C'est pas la peine que les jeunes soient saignés, quoi. Quand est-ce que ces générations vont se renouveler? Vous comprenez, si les jeunes combattent et meurent, combattent avec des soldats professionnels et meurent, vous voyez, il va avoir un vide générationnel. Hein. Donc, faire attention, moi, je n'approuve pas cet appel à la guerre, à la Légion étrangère et aussi à distribuer des armes aux civils. Il suffit de signer des accords, de faire la paix. Et puis, c'est bon, cette guerre va s'arrêter. Bon, je sais que la paix n'est pas facile à faire. Parce que chacun ne veut pas perdre la face, puisque la haine est attisée un peu partout et que les États-Unis aussi ont leurs responsabilités, l'Europe aussi a sa responsabilité dans cette guerre. C'est pas la peine de mettre l'huile sur le feu. On peut négocier, on peut arriver à négocier au lieu de perdre des vies. La vie est sacrée, parce que l'on ne meurt qu'une seule fois. Ceux qui sont morts là ne sont même pas nés de nouveau, vous voyez? L'ennemi de nos âmes profite de cette guerre-là pour engranger des âmes, puisque la Bible dit que l'enfer a ouvert sa gueule. Donc pour engloutir quoi? C'est des âmes que l'enfer veut engloutir, vous voyez. C'est ça. Donc mes frères, mes sœurs, nous devons comprendre. Mais il y a certains responsables dans l'Église qui veulent avoir les mêmes droits sur les dîmes, prélèvent les dîmes. C'est pour eux. Personne ne fait les comptes avec eux. Et après les offrandes, il se retire dans sa chambre avec les dîmes et c'est lui seul et son épouse qui compte les dîmes, ou bien avec un frère, un des anciens, ou bien je ne sais pas quoi, qui compte. Normalement, ça devait être confié à quelqu'un d'autre, à un frère. Vous voyez, il n'y a pas de transparence. Vous voyez que les responsables, certains responsables chrétiens aujourd'hui veulent avoir les mêmes prérogatives que ce roi. C'est pas légal que ce que l'Éternel Dieu a dit ici. C'est pas légal. Les pasteurs et autres prophètes, apôtres, évangélistes et enseignants ne sont pas des rois. Ne sont pas des rois, ne règnent pas. Il n'y a qu'un seul roi dans l'Église, c'est Jésus le Messie, Yeshua, HaMashiach, Yeshua le Messie, celui qu'on appelle Jésus le Christ. C'est ce qu'on appelle. Celui qu'on appelle Jésus le Christ. C'est le Christ qu'on dit, on ne dit pas, parce que des fois j'entends les frères dire, c'est Christ, c'est Christ, c'est Christ. C'est pas correct. Il faut dire le Christ, c'est son titre. Le Christ. Vous voyez, Jésus le Christ qu'on doit dire. Parce que beaucoup de gens confondent, beaucoup de gens pensent que c'est ça, c'est son nom et prénom, quoi. Vous voyez, c'est son nom et prénom, bien c'est son prénom et nom. Jésus-Christ, oui, c'est son prénom Jésus et le nom c'est Christ. Non, Christos veut dire oint. C'est le terme français pour désigner le Messie. C'est le titre, ça. Donc, on peut dire Jésus le Christ, ou le Christ Jésus, ou Yeshua le Messie, ou Yeshua HaMashiach, ou Yesu Christos. Voilà. Donc, beaucoup de ces responsables chrétiens ou surintendants, ils se donnent des titres ronflants, archibishop, ils ajoutent même des noms bibliques, Melchizedek, beaucoup de choses, quoi, beaucoup de choses. Mashiach, ils ajoutent ça aussi. Ils ajoutent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour impressionner les gens et on les voit avec des chaînes en or, des bagues plein les doigts, je sais même pas. Des bagues plein les doigts, ce qu'ils veulent faire avec. Ils veulent l'amener au ciel. Non, c'est les pierres précieuses qui sont sur le pectoral du souverain sacrificateur, n'est-ce pas, c'est ça? Oh non. Donc, certains responsables veulent vivre, veulent prélever la dîme, les offrandes, veulent avoir le droit de vivre des morts sur les frères et sœurs. Non, dans l'Église, nous avons des relations fraternel. Nous sommes différents, mais unis dans le Christ Jésus. C'est ça, nous sommes unis. Nous ne pouvons pas être uniformes. Dieu n'aime, l'Éternel Dieu Elohim n'aime pas l'uniformité. L'Éternel Dieu aime la diversité. Soyons fiers de nos origines. Soyons fiers de ce que nous sommes. Personne n'a voulu naître là où il est né. Personne n'a voulu être né dans un pays ou bien être de telle couleur. C'est l'Éternel Dieu qui a fait cela et qui nous a réunis. C'est lui qui nous a réunis ensemble. Si je n'étais pas en Yeshua, en Jésus, je ne serais pas là en train de vous prêcher ou bien en train d'enseigner. Et vous ne serez pas là pour m'écouter. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. C'est Yeshua qui nous unit. Nous sommes différents. Nous ne sommes pas uniformes, mais nous sommes unis. L'uniformité, c'est la mondialisation. On veut que tout le monde soit pareil. C'est Nimrod, c'est Babylone, c'est l'uniformité. D'accord? Alors que Dieu, c'est l'unité. L'unité, vous savez, l'unité. La recherche de l'uniformité entraîne toujours la dictature, entraîne toujours la violence à exercer envers ceux qui veulent être différents, voyez. Dans l'Église, c'est ça. Dans l'Église, il y a beaucoup de différents. Nous sommes un En Yeshua, mais nous sommes différents. Chacun sa personnalité, chacun sa particularité, mais dans la soumission les uns aux autres, l'Église fonctionne normalement. Donc ce roi aura des prérogatives. Regardez tous ces prérogatives, mais le peuple endurci de cœur, comme il était, a préféré continuer dans cette voie-là, malgré les avertissements de l'Éternel Dieu. Et quand le roi, ce roi, prendra toutes ces choses, on l'a vu avec Akab, hein, qui a tué Naboth pour prendre sa vigne. Mais oui, il a tué, voilà, pour prendre sa vigne, parce que Jézabel en voulait cette vigne, le vignoble. Allez, hop, on le liquide. Voilà, ce sont des choses encore qui se passent aujourd'hui, hein. Ou quand un grand veut ton champ, il fait tout pour liquider la personne, hein, et prendre le champ, prendre le bien, ou bien on fait couler ton entreprise, et puis voilà, et tu seras obligé de vendre ton entreprise. Ça, on l'a fait dans beaucoup de pays, le font. Quand ton entreprise prospère, il y a un politicien qui vient te voir. Soit tu me permets d'entrer dans ton capital, ou bien tu fermes et je prends ta société. C'est ça, surtout en Afrique, hein. Ça, ce sont des choses qui se voient, qui se font. Mais ici, il s'agit du droit légal du roi que l'Éternel lui-même a établi. Et il les avertit que, alors, avec toutes ces choses-là que le roi va prendre, que le roi va faire, ben oui, ça diffère, hein. Les gens ne sont pas habitués à ça. Et que le peuple va se révolter, ou bien va crier. Alors vous crierez contre votre roi, que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Voilà. L'Éternel ne va pas vous entendre. C'est à l'imparfait. Vous allez crier plusieurs fois. Comme les gens criaient comme Jéroboam, hein? Mais l'Éternel n'a pas entendu. Ils ont crié contre Jéroboam, comme Manassé, sûrement, contre d'autres mauvais rois. Mais le roi est resté jusqu'à au temps fixé par l'Éternel Dieu pour la déportation d'Israël, puis après la déportation d'Israël par les Assyriens, puis la déportation donc de Juda et de Benjamin par les Babyloniens. Hein? D'accord? Donc voilà, l'Éternel les a prévenus. Comme vous avez choisi votre roi, ne venez pas me voir quand ça va mal tourner. Quand ça tournera au vinaigre, ne venez pas me voir. Hein? Quand vous-même, vous choisissez une voie, vous choisissez un métier, vous choisissez. Mais l'Éternel Dieu est là pour pardonner, hein, puisque nous sommes au temps de la grâce. Nous pouvons nous tromper, l'Éternel est là pour nous pardonner. Si nous nous repentons sincèrement, il est là pour nous pardonner. Vous voyez, si nous nous repentons sincèrement, il viendra, il nous pardonnera. Le verset 19, le peuple refusa d'accéder à la voix de Samuel et répondit, non, il nous faut un roi. C'est impératif. Vous allez voir que c'est impératif. Vraiment, il nous faut un roi. Ils n'ont pas voulu. Le peuple refusa. Imparfait, plusieurs. En plus, c'est un piel. C'est un intensif. Intensif, c'est si c'est le verbe briser. Quand on emploie le mot de piel au verbe briser, ça veut dire réduire en miettes. Vous voyez, réduire en miettes, c'est un intensif. Vous voyez, c'est un intensif. Il a massacré. Quand on dit tuer, on emploie un piel. Le mot de piel, ça veut dire massacrer. Voilà. Et c'est ce mot de pierre qui est employé pour le verbe refuser. Mawen, refuser. Le peuple a vraiment refusé. Je ne sais pas comment on le traduit, mais ou bien ça veut dire aussi résister. Le résister, ça veut dire aussi Mawen. recevoir aucune, ne pas vouloir, refuser, c'est une racine primaire. Et c'est à l'imparfait, cela veut dire que l'action s'est répétée et que Samuel est revenu plusieurs fois dire ça, discuter avec le peuple, mais le peuple a refusé. Vous voyez, il peut pour refuser, a refusé, vraiment le peuple, les anciens se sont campés sur leur position, quoi. Vraiment, ils étaient déterminés, ils ont refusé d'écouter. Ils ont refusé d'écouter ce que l'Éternel a dit à travers Samuel. Chamant, ils ont refusé d'écouter. Entendre, comprendre, prêter attention, consentir, admettre. Ils ont refusé d'admettre ce que l'Éternel Dieu a dit à Samuel, d'écouter la voix de Samuel. Ils ont refusé. De la même manière, des fois l'Éternel parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, mais nous refusons de voir, nous refusons la solution. Tant que nous refuserons, mais le problème sera toujours là, où l'Éternel nous laissera aller dans cette voie pour récolter les conséquences. Et c'est ce qui s'est passé, puisque Israël voulait un roi. Si Israël n'avait pas voulu un roi, mais il n'aurait pas eu le schisme. Et cela ne veut pas dire que l'Éternel ne donnera pas un roi à Israël. Mais tout est une question de temps, ou bien de timing, comme disent les Anglais. Tout est une question de période, de saison. C'est comment l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si l'Éternel Dieu l'avait placé dans le jardin, c'est pour le bien de l'homme, de l'être humain, n'est-ce pas? Mais l'être humain n'était pas encore mûr en ce moment pour pouvoir manger de cet arbre. Il y a des saisons avec Dieu également. Comme toi aussi, il y a des saisons, il y a des périodes où tu progresseras dans un enseignement, dans une compréhension où l'Esprit Saint va te révéler certaines choses, hein? Mais si tu n'es pas mature, si tu n'es pas fort, tu ne pourras pas. C'est pourquoi Yeshua dit, ne jetez pas les perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent. C'est ça. Si l'Éternel Dieu te révèle certaines choses, tu ne pourras pas les supporter. Peut-être au moment où tu te trouves, ou bien au niveau de compréhension que tu te trouves. Vous voyez, notre foi ne peut jamais dépasser notre connaissance de la parole de Dieu et de l'Éternel Dieu. Comprenez maintenant, c'est pourquoi il dit, ne jetez pas les perles devant les pourceaux. Voilà. Puisque l'Éternel a en vue le Messie et que le Messie sera roi. Mais oui, il faut qu'il passe par un roi. Le Messie sera un descendant de David, d'un roi d'Israël. Voilà, c'est ça. Donc, arrivé un moment, le roi, la royauté allait arriver en Israël. La royauté allait arriver, mais ce n'était pas le moment. Mais les anciens ont profité d'une occasion, du péché des fils de Samuel, voilà, pour avancer leur pion, pour vouloir être comme les nations. De la même manière, beaucoup, certaines églises ne supportent pas la différence. Ok. Alors, on continue. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, marchera à notre tête, conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes ces paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel, et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Donc, le peuple a refusé d'accéder à la voix de Samuel. Non, 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 il nous faut un roi. Nous voulons être comme les autres peuples, nous aussi, vous voyez. Donc, leur besoin ne part pas d'une bonne intention, hein. En tout cas, leur demande plutôt ne part pas d'une bonne intention. Ils voulaient simplement être semblables aux autres. Ils voulaient être semblables aux autres. Ouais, c'est un impératif qu'ils ont utilisé. Attendez, je vais vous le dire. Non, il y aura un roi sur nous. Non, dirent-ils. Radical cas, imparfait. Voilà, ils ont répété ça plusieurs fois. Ils disent non. Ils ont refusé. Ils n'ont pas voulu écouter Samuel. Ils lui ont opposé un fin de non-recevoir. Comme on dit, il y aura un roi sur nous. Voilà. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Vous voyez que leur demande n'est pas pure. Hein? Ils veulent être comme les autres nations. Comme certaines églises veulent être comme tout le monde. Ils veulent se fondre dans la masse. Comme certains chrétiens. Nous ne voulons pas. Vous savez, la différence, des fois, n'est pas facile à supporter. Hein? Hein? La différence n'est pas facile à porter. Mais il faudrait faire ça. Il faudrait faire ça. Il faudrait arriver à... Voilà, c'est en étant différent que l'Église va attirer. Que l'Église va attirer la curiosité des gens, quoi. Des gens du peuple. Mais pourquoi eux, ils sont différents? Pourquoi eux, ils sont comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais si nous voulons voir, ils voulaient être des clones. C'est la mondialisation avant l'heure, ça. C'est ça. Ils voulaient être comme les autres peuples. C'est ce que Babylone veut. La mondialisation heureuse. C'est ce que Nimrod avait mis en œuvre dans la vallée de Shinéar. Tout le monde doit être pareil. Tout le monde doit parler le même langage. Tout le monde doit fabriquer les mêmes briques. Tout le monde doit être ceci. Tout le monde doit être comme ça. C'est comme ça. Pas autrement. Vous voyez, il veut faire des clones. Une uniformisation des pratiques de tout le monde. Tout le monde doit s'habiller de la même manière. D'accord? Voilà. Donc, nous voyons également que Israël veut comme les autres nations, alors que Israël est un peuple à part. C'était l'échantillon de Dieu. C'était la nation start-up de Dieu. C'était la vitrine de l'Éternel. Voilà, c'est ça. Veut avoir un roi, comme les autres nations, se fondre dans la masse, être comme les autres. Voilà. Ils rejettent Dieu. Dieu ne doit pas dominer sur eux. Vous voyez, leurs motifs ne sont pas purs. Alors que c'est Dieu qui les jugeait, ils ne veulent pas. Alors que l'Éternel Dieu est plus juste qu'un roi humain. N'est-ce pas? Il marchera à notre tête. Vous voyez, il conduira nos guerres. Non. Jusqu'à présent, c'est l'Éternel. On l'a vu depuis le livre de Josué. On a vu que c'est l'Éternel qui a combattu et qui combattait pour Israël, n'est-ce pas? Et qui remportait les victoires. C'est ce que la Bible nous dit. Que Israël a combattu, mais ils ont mis leur foi en l'Éternel et l'Éternel a combattu pour eux. C'est ça, c'est l'Éternel qui combattait les ennemis. C'est lui-même qui marchait devant eux, à leur tête, et qui leur accordait la victoire. D'accord? Donc, le peuple ne voulait plus que l'Éternel soit leur guerrier, soit leur combattant. Alors que la Bible nous dit, une personne plus Dieu égale toujours la victoire, n'est-ce pas? Une personne plus l'Éternel Dieu égale toujours la victoire, donne toujours la victoire, n'est-ce pas? Mais eux, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas ça. Voulaient pas que Dieu soit leur guerrier, que Dieu soit à leur tête. Donc, ils voulaient donc le remplacer par quelqu'un de semblable à eux. Donne-nous un roi qui marche devant nous. N'est-ce pas? Comme ils ont dit, nous voulons un Dieu qui marche devant nous. C'est ça, un Dieu semblable à nous. C'est ça qu'ils ont dit à... En fabriquant le veau d'un Dieu qui marche devant nous. Vous voyez, un Dieu qui marche devant nous. D'accord? C'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient un roi comme eux qui marche devant eux, qui conduit leurs actions, qui les juge. Or, le jugement du roi peut être erroné et peut être injuste. C'est ce qui se voit, non? Dans les républiques aujourd'hui. Que le président peut influencer la justice, peut instrumentaliser la justice et que la justice ne rendra jamais la justice aux pauvres ou bien à ceux que le roi ne veut pas voir ou bien contre les ennemis du président. D'accord, c'est le président qui décide d'une manière arbitraire, le roi humain qui décide d'une manière arbitraire puisque ce roi aussi est imparfait. D'accord? Donc en faisant cela, ils ont rejeté l'Éternel. Vous voyez, de la même manière, lorsque nous voulons diriger notre propre vie, nous rejetons la gouvernance de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous sommes trop centrés sur notre moi, c'est pourquoi notre ego doit être brisé, l'orgueil doit être brisé, l'orgueil de la vie. Voyez, l'orgueil de la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie doit être brisé complètement. Le moi doit être brisé, écrabouillé complètement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas le fait de demander un roi qui pose problème, mais c'est la manière, c'est la raison pour laquelle il faisait cela qui posait problème. D'accord? Nous devons, nous, en tant que frères et sœurs, en tant qu'enfants de l'Éternel Dieu, vivre dans sa dépendance. Ce n'est pas pour rien qu'on nous dit que nous sommes des enfants de l'Éternel Dieu. Un enfant, des fois, est malhabile, ne sait pas toujours ce qui est bien pour lui. Nous sommes des enfants. Et l'Éternel Dieu nous conduit, il nous a pris, il nous a créés. Il nous a fait naître dans le royaume. C'est une création. Puisque la Bible nous dit que ceux qui sont en Yeshua, dans le Messie, sont une nouvelle création. Vous voyez, c'est on a vécu une deuxième création. Et comme il a fait à Adam, il a façonné. Écoutez bien, vous savez, il y a rien de nouveau. Le processus de nouvelle naissance suit la création dès le début, la création de Dieu. Voilà, il faut vraiment faire attention aux verbes utilisés. Dans le livre de Genèse, la Bible nous dit d'abord que l'Éternel a créé l'être humain. Après, on nous dit dans le chapitre 2 qu'il a façonné, il a façonné. Et après, on nous dit qu'il a insufflé en lui le souffle des vies. Corps. Il avait déjà le corps, l'Éternel a créé l'homme de la terre, de la glaise. Après, il a façonné, il lui a donné sa forme, et il a donné la vie. C'est la même chose. Regardons la nouvelle naissance. On l'a vu, duquel nous sommes une nouvelle créature. La personne naît de nouveau, naît dans le royaume de Dieu. Ça, c'est le premier processus. Il est créé. Après, il le façonne, il transforme. Cette personne se convertit, se détourne de ce monde. Cette personne est façonnée par la parole de Dieu, par les épreuves, par la prière, par le jeûne, par tout. Dieu le façonne. Et Dieu le façonne par son esprit. Dieu la façonne, cette personne, pour que cette personne devienne quoi? Un homme fait. Or, la Bible nous dit, que quoi? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait tout pour que nous arrivions à l'état d'homme fait, à la ressemblance du Messie. Voilà le but final. Et c'est ce qu'il a voulu faire avec Adam. Il a créé, il a façonné. Et Adam devait être mais l'ami de Dieu. Devait avoir cette relation de proximité avec l'Éternel Dieu. Mais le péché a tout gâché. Donc, les Israélites pensaient peut-être que avec un roi humain à leur tête, ils gagneraient plus d'indépendance, il y aura plus de justice. Ils avaient une illusion, comme beaucoup d'entre nous, ou bien beaucoup de personnes, vivent dans l'illusion qu'en faisant cela, en faisant cela, Dieu va agir, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Voilà. Il pensait que il gagnerait donc en autonomie, en puissance, en prestige, lorsqu'ils auront un roi comme les autres peuples, que le roi va s'habiller très bien, va être à leur tête, va les conduire, tout le monde va crier au roi, au roi, au roi. Tout le monde sera dans l'admiration de ce roi et que ce roi va engranger des victoires pour eux. Ou bien est-ce que ce roi va aller de victoire en victoire parce qu'il est roi? Mais non. Oui. Ce faisant, ils ont rejeté l'Éternel. Peut-être qu'ils ne l'ont pas fait exprès. Peut-être qu'ils l'ont fait, ou bien peut-être c'est à cause de la convoitise. Ils voulaient être semblables, ils en ont marre d'être à part, d'être saints. Vous voyez, les gens aussi ont marre d'être saints, en ont marre d'être chrétiens. Oh, vous êtes extrémistes. Oh, vous êtes trop ceci. Oh, vous êtes trop ceci, vous êtes trop cela. Alors, allez, oh, soyons comme tout le monde, et puis c'est bon. Passons inaperçus. Vous voyez, beaucoup de gens, l'Église aujourd'hui veut ressembler au monde, veut faire comme le monde. Les Églises veulent que tout le monde soit pareil. Qu'il y a une sorte d'uniformité, d'uniformisme, c'est dangereux. La Bible dit le contraire. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu, Elohim, un seul Seigneur, Yeshua, un seul esprit, l'Esprit Saint, un seul baptême, mais plusieurs dons, plusieurs ministères. C'est comme ça, l'Église. D'accord? Donc, voilà le motif qui, des fois, qui nous pousse des motifs qui sont en dehors de la volonté de Dieu, qui nous mue, qui nous amène à prendre le compte-pied de Dieu. À ce faisant, nous rejetons l'Éternel Dieu, nous rejetons des fois le plan de Dieu dans notre vie. Et cela nous empêche d'entrer dans notre destinée, comme aussi le péché, Adam a choisi son indépendance, d'accord, l'a fait échouer, a fait dévier toute l'humanité donc du plan de Dieu ou de la destinée. Adam et Ève ne sont pas entrés dans leur destinée. De la même manière, Israël aussi ne va pas entrer dans sa destinée. Parce qu'il va avoir que des guerres, des intrigues, des tueries, de l'impudicité, de l'idolâtrie, avec tous ces rois-là qui vont venir. C'est ça, ils vont faire pécher Israël, comme le roi Manassé va faire pécher et Judas, comme le Jéroboam, Manassé et Jéroboam sont restés comme les pires. Manassé en Judas et Jéroboam en Israël, les pires. Alors que l'intention de l'Éternel Dieu était bonne au début. Vous voyez, on peut même détourner l'intention de Dieu. L'Éternel Dieu a fait une chose, a posé un acte bien pour Israël ou bien pour nous, et nous allons détourner, voyez, cela pour aller loin de l'Éternel. C'est ce qui s'est passé. Je donne toujours l'exemple de ce frère. On était ensemble au Togo. Je ne sais pas, j'aimerais bien le rencontrer, ce frère-là, mais je ne me souviens plus de son nom. C'est un Béninois. Un Béninois, je pense qu'il est, comme on le dit chez nous, il est 2x5. Et on priait ensemble, c'était mon ami. Hein. J'aimais beaucoup ce frère-là parce qu'on priait véritablement. Il y avait une amitié sincère entre nous, quoi. On priait ensemble jusqu'à ce qu'il trouve sa femme. Après, il a gagné le loto visa pour aller aux États-Unis. Et voilà, ça a commencé comme on a prié pour qu'il gagne pour aller aux États-Unis. Et lorsqu'il a gagné, c'était fini. Il est devenu un autre. Même son mariage, c'est fini. Il a gâché son mariage puisque sa femme était même enceinte avant le mariage. Il n'a plus voulu se marier.
à l'église évangélique. Il est parti dans la grande église. Vous voyez, c'est une sorte d'apostasie. Hein? Il connaissait la vérité, il a prêché la vérité, et malgré cela, parce qu'il a gagné l'auto-visa pour aller aux États-Unis. Les États-Unis, c'est pas le ciel, c'est pas le paradis. Et c'est comme ça qu'il a gâché. C'est comme ça que notre amitié aussi a pris fin. Vraiment, ça m'a fait beaucoup mal. Vous voyez que nous avons prié, l'Éternel lui a donné quelque chose, mais il a détourné cela pour s'éloigner de l'Éternel. De la même manière, Israël a demandé un roi qui lui sera accordé, mais ces rois vont détourner Israël de l'Éternel, vont détourner. Donc, même le livre de la loi sera à un moment donné perdu, et c'est au temps de Josias, un roi. Josias était le fils de Manassé. Hein, Josias était le fils de Manassé, le pire roi de Juda, Manassé, idolâtre, meurtrier, tout ça là. Et c'est son fils qui va amener le réveil. On va même retrouver la loi de Dieu dans le temple. Vous voyez, la loi était perdue, on ne lisait plus ces lois. Et c'est Josias qui va retrouver celle, va demander que cette loi, on va lui faire une copie, hein, et que cette loi également soit lue au peuple. Et ça a amené un grand réveil. Vous voyez? Donc, mes frères et sœurs, soyons vigilants. C'est pourquoi il est important de rester dans la volonté de Dieu, dans la dépendance par rapport à l'Éternel Dieu. Et nous avons vu que le premier roi va être aussi un désastre pour Israël, puisque Saül va être imbu de lui-même et va aussi faire pécher le peuple et va mal se conduire. Et il va être rejeté par l'Éternel Dieu. Voilà ce qui va se passer. Mes frères et sœurs, que l'Éternel Dieu nous vienne en aide et nous aide vraiment à dépendre de l'Esprit de Dieu. Même nous, hein, si nous voyons en arrière de notre vie, nous pouvons dire que j'aurais dû ne pas. Hein, j'aurais pu ou bien. Je n'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû écouter l'Éternel Dieu. Voilà, il y avait une petite voix qui me disait, ne fais pas ça. Mais non, vous voyez, c'est comme aussi le mariage. Hein. Poussé par notre désir, entre guillemets, notre amour. Alors que c'est pas l'amour qui nous poussait, c'est pas l'Esprit de Dieu qui nous poussait, mais c'est plutôt notre chair, notre convoitise, c'est plutôt la beauté de la sœur, du frère, ou le portefeuille du frère, ou sa position dans l'église, ou la position de la sœur dans l'église, ou sa voix, elle est dans la chorale, il est dans la chorale, il prêche bien, il fait ceci, il fait cela. Voilà, donc on ne prend pas le temps de prier. Et on m'a raconté une histoire comme ça, qu'il y avait un frère qui est arrivé, un ex-musulman, qui est venu zélé pour Dieu, tout ça, l'a converti, avec brio, machin, et qui a épousé une sœur. Et après le mariage, une fois rentré à la maison, le gars lui a dit, ok, je laisse ton Jésus, moi je reprends mon tapis. Vous voyez, bon, si cette sœur avait pris le temps vraiment d'interroger l'Éternel Dieu, je pense que l'Éternel lui aurait dit de ne pas aller dans ce sens-là. Hein? Nous aussi, nous avons des exemples dans notre propre vie. Hein? Hein? Toi qui m'écoutes, toi aussi, tu as des exemples. Après quelque temps, tu vois que, voilà, tu aurais dû faire ça, tu n'aurais pas dû faire ça. Mes frères et sœurs, soyons à l'écoute de l'Éternel Dieu. Ouais. Ici, les Israélites n'ont pas écouté. Malgré les avertissements, ils ne l'ont pas écouté. De la même manière, nous sommes dans une période charnière, difficile. Il y a beaucoup de défis qui attendent l'Église, beaucoup de troubles dans le monde. Ouais. Mais certains chrétiens se conduisent encore de la même manière. Ils attendent que tout se calme pour reprendre leur vie d'avant.
Moi, je pense que nous devons vraiment, chacun de son côté doit prier, interroger Dieu, Seigneur, que dois-je faire? Qu'est-ce qui se passe? Comment dois-je me comporter dans cette période? Donne-moi une direction, parce que la Bible dit que l'Éternel ne fait jamais rien, n'amène un malheur sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Nous sommes tous prophètes de l'Éternel. Ses serviteurs, les prophètes. D'accord? Donc nous devons tous prier avec tout ce qui se passe, parce que ça peut déraper à tout moment. Surtout nous qui sommes ici en Europe, ça peut déraper à tout moment. Et nous devons vraiment plier le genou pour prier pour nos nations, pour prier et pour que l'Éternel nous donne des directives, ce qu'il faut faire. Voilà, la crise sanitaire, la guerre nous menace avec tout ce qui nous menace, que devons-nous faire? Et c'est le temps aussi de nous sanctifier, parce que nous pouvons aussi mourir d'un moment à l'autre. Vous voyez, il suffit qu'une bombe tombe quelque part et puis c'est bon. Si je suis une bombe, oui, ça peut déraper, d'accord, mes frères et sœurs. Donc, que l'Éternel Dieu nous garde et nous protège, nous donne la grâce de dépendre de lui en toutes choses, de dépendre de l'Esprit, de son Esprit Saint, de vivre en esprit et par l'esprit, et d'offrir nos cœurs, nos corps, nos cœurs bien sûr, et notre corps entier comme un sacrifice vivant à l'Éternel Dieu. Voilà, comme un holocauste. Voilà, donc c'est le grand souverain sacrificateur qui s'occupe de l'holocauste, qui découpe la viande ainsi de suite, et qui sépare les morceaux. Voilà, donc faisons-lui confiance et donnons-nous entièrement à lui. Il fera de nous, il fera de nous des hommes faits. Il va nous façonner et nous mènera vers la statue parfaite du Messie, Yeshua. Alors, qu'il en soit ainsi pour nous tous. Je vous bénis dans le nom de Yeshua. Shalom, shalom, shalom. À bientôt, mes frères. Bye bye. Pour une prochaine édition. Bye bye, bye bye.